Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h11 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. RFI vous donne la parole comme tous les jours à cette heure-ci. Dans 30 minutes, un débat évidemment. Nous parlerons tout à l'heure de l'extradition devant la Cour pénale internationale de Rambo, son vrai nom, Alfred Yekatom, ancien chef de milice centrafricain, soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis entre décembre 2013 et août 2014 à Bangui, donc dans la capitale, mais aussi dans le sud-ouest de la Centrafrique. C'est d'ailleurs la première fois qu'un centrafricain est remis à la CPI. Alors évidemment, les ONG telles que la FIDH se félicitent de ce transfèrement qui envoie un message fort. Il n'y aura plus d'impunité en Centrafrique. Alors vous qui nous écoutez sur place, dites-nous si vous approuvez cette extradition ou s'il fallait plutôt juger cet ancien chef de guerre sur place, dans votre pays, en Centrafrique. Quel avenir judiciaire désormais pour les autres chefs de milice qui contrôlent encore à l'heure actuelle entre 70 et 80 du territoire. Vous nous appelez, on a envie de vous entendre, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va justement commencer avec une question sur l'extradition d'Alfred Yekatom à la Cour pénale internationale. Bonjour Ali.
Bonjour Monsieur Gomez et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Ségou au Mali, nous vous écoutons.
Bien, pourquoi avoir extradé Rambo alors que la Centrafrique vient d'inaugurer une cour pénale spéciale à Bangui pour juger les crimes commis de 2003 à nos jours?
Alors vous savez, Ali, vous posez une excellente question. Je me suis moi-même posé la question en apprenant sur les réseaux sociaux de RFI l'extradition de cet homme qui est surnommé Rambo. Bonjour Charlotte Cosset.
Bonjour Juan et bonjour Ali.
Correspondante de RFI à Bangui. Alors effectivement, la Centrafrique a récemment inauguré la Cour pénale spéciale qui est chargée de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis depuis 2003. Pourquoi ce n'est pas cette juridiction qui jugera Alfred Yekatom?
Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent cette décision. D'abord, la Cour pénale spéciale a officiellement été inaugurée mais n'est pas encore totalement prête à faire son travail. Et sa mise en route, il faut le dire, prend un peu de temps. Les officiers de police judiciaire sont encore en formation, par exemple, les locaux de la CPS encore en construction à Bangui. D'autre part, il y a la question aussi du lieu de réclusion en Centrafrique qui reste entière. La principale prison de Bangui est celle de Garagba, qui a été construite dans les années 50 et qui est censée accueillir 400 prisonniers. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 800 assis entassés. Une prison gardée par des agents pénitentiaires, des soldats et des casques bleus, ce qui n'empêche pas des évasions régulières. On peut donc difficilement imaginer une personnalité comme Yekatom Rambo, très influent et qui a du pouvoir, être incarcéré dans ces conditions-là.
Et on imagine, Charlotte Cosset, que l'influence de ce chef de guerre à Bangui a sans doute pesé dans la balance.
Bah effectivement, l'avocat de la défense, Maître Njapou, hier assurait que non, mais il affirmait dans un autre temps que tout de même, Rambo avait laissé des directives à ses hommes pour qu'ils restent calmes avant de partir. Alors à Bangui, certains étaient fébriles sur les conséquences de son arrestation, de son transfèrement, ou des risques encore de désordre que cela pouvait engendrer.
Ouais, donc on comprend bien, il y a donc des aspects techniques qui ne permettent pas de juger Alfred Yekatom en Centrafrique. Qu'en est-il de la volonté politique, de la volonté des autorités centrafricaines?
Alors la volonté politique, elle est très claire à ce sujet. Le procureur général Éric Didier-Tambo s'est exprimé avant-hier et a rappelé que la CPI avait été saisie par les autorités centrafricaines elles-mêmes en mai 2014. Dès septembre, la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, répondait positivement aux autorités de la RCA et ouvrait une enquête sur la situation en Centrafrique depuis le 1er août 2012 et plus précisément sur les présumés crimes commis à la fois par les groupes anti-Balaka mais aussi Seleka. Donc la volonté politique de collaborer et de travailler avec la CPI est officiellement affichée depuis 2014. Le calendrier, si on revient sur ce calendrier des faits, montre aussi l'importance qu'a joué la collaboration des autorités avec la CPI. Yekatome Rombo est arrêté à Bangui le 29 octobre à l'Assemblée nationale. Après, je vous le rappelle, que le député a sorti son arme dans l'hémicycle.
Oui.
Et le 11 novembre, la CPI délivre un mandat d'arrêt contre lui. Et dès le 17 novembre, donc moins d'une semaine après, l'ancien chef rebelle était en route vers La Haye. C'est donc un déroulé très rapide qui montre la volonté politique de collaborer donc avec la CPI. Le procureur général l'a encore souligné lundi. Si nous pensons qu'on peut juger dans notre pays et qu'on a les moyens nécessaires, on le fait. Sinon, on donne le cas à la CPI. Pour lui, il l'a rappelé, l'essentiel, c'est la lutte contre l'impunité.
Oui.
Et d'ailleurs, l'impunité zéro, c'est l'un des piliers de la politique du président Touadéra.
Oui, le procureur général qu'on a pu entendre, effectivement, sur l'antenne de RFI. Ali, vous aviez une dernière question.
Oui, monsieur. Il s'agit du premier transfert vers la CPI depuis l'ouverture de l'enquête sur la Centrafrique en septembre 2014. Alors, peut-on s'attendre à de nouvelles arrestations, notamment les anciens membres de la CELECA?
Ah, là aussi, bonne question. Charlotte Cossé, on rappelle que Rombo contrôlait une milice anti-Balaka qui s'opposait donc à la coalition de la CELECA. Les deux camps sont responsables de crimes. Est-ce qu'on peut s'attendre à des arrestations également du côté de la CELECA?
Alors, des arrestations de ce côté-là ont déjà eu lieu, des personnalités mineures, il faut bien le préciser, il y en a déjà certaines qui ont été arrêtées et jugées par la justice nationale. En ce qui concerne les grands chefs de l'ex-CELECA, eux se trouvent majoritairement encore dans le nord de la Centrafrique, hors de portée encore aujourd'hui de l'autorité d'État. Alors le gouvernement travaille au redéploiement de l'armée sur le territoire, ainsi qu'au redéploiement des tribunaux, mais cela paraît encore un peu compliqué. D'autre part, les principaux leaders des groupes armés sont aujourd'hui en pleine négociation dans le cadre de l'initiative de l'Union africaine. Alors leur interpellation aujourd'hui dans un délai court semble un peu compromis, en tout cas compliqué.
Ouais. À suivre, et on aura l'occasion évidemment d'en débattre avec les auditeurs dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous, rejoignez-nous, 33 9 693 693 70. Merci Charlotte Cosset. Ali, bonne journée à Ségou, au Mali, où il est 8h17. Bonjour Rousseau.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de la République démocratique du Congo et vous souhaitez revenir sur la démission d'Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense.
Oui Juan, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, avait démissionné juste après l'accord de cessez-le-feu avec les Hamas. Qui reprochait l'ex-ministre de la Défense à Benjamin Netanyahou? Avigdor Lieberman a annoncé qu'il est dans l'opposition.
Oui.
Quel est l'impact de sa démission sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou?
Alors, c'est vrai que cette démission a provoqué la semaine dernière un séisme politique en Israël. Pour l'instant, Benjamin Netanyahou a réussi à sauver son gouvernement, à éviter des élections anticipées. On va tout vous expliquer avec notre correspondant permanent à Jérusalem. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour Rousseau.
Alors rappelons que c'est après deux jours de très fortes tensions avec les groupes armés de la bande de Gaza que la démission d'Avigdor Lieberman est intervenue.
Oui, alors rappelons un peu la chronologie des faits de la semaine dernière qui ont conduit à cette extrême tension. Il y a eu tout d'abord une opération dimanche soir de la part de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, dans la ville de Khan Younes précisément. C'est au sud de la bande de Gaza. Alors l'armée israélienne parlait d'une opération de routine. C'est d'après les témoignages que j'ai pu recueillir sur place, un minibus Volkswagen qui transportait 8 personnes qui étaient stationnées en fait devant une maison de Khan Younes, la maison en fait d'un des commandants des brigades Ezzedine El Kassam. Les brigades Ezzedine El Kassam, c'est la branche armée en fait du Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle le territoire. Et ce commandant, Nour al-Baraka, a repéré finalement cette voiture, l'a trouvée assez suspicieuse. Quand elle s'est éloignée, la voiture, eh bien, il a décidé de la suivre. Là, un dialogue s'est engagé avec eux. Et finalement, en fait, cette conversation entre le commandant des brigades Ezzedine El Kassam et ce commando israélien s'est terminée donc par des coups de feu et des échanges de coups de feu, des explosions aussi. Le commando a dû être extrait par des hélicoptères israéliens qui sont arrivés dans la bande de Gaza. En tout, 7 Palestiniens ont été tués. Parmi les membres des brigades des Zedine El-Kassam, un soldat israélien aussi a succombé lors de cette opération, qui a été le point de départ de ces tensions, puisque dans la nuit qui a suivi, les groupes armés de la bande de Gaza, particulièrement les brigades des Zedine El-Kassam, ont tiré 17 roquettes vers le territoire palestinien. Alors, vers le territoire israélien. Mmh. On pensait à ce moment-là à l'épisode clos, mais finalement, lundi, en fin d'après-midi, les groupes armés de Gaza ont tiré un barrage de roquettes vers le territoire israélien. Une centaine de roquettes en 40 minutes, c'était beaucoup. La réplique israélienne a suivi. Et là, en fait, on était dans un cercle de violence qui a entraîné donc 24 heures de violence, 460 roquettes en tout, 160 sites palestiniens bombardé d'après l'armée, jusqu'à un cessez-le-feu donc qui a été conclu en fin d'après-midi mardi.
Et c'est justement ce cessez-le-feu qui a provoqué le départ du ministre israélien de la Défense.
Oui, effectivement, Avigdor Lieberman a dénoncé une capitulation face au terrorisme le lendemain. En fait, Avigdor Lieberman a annoncé son départ du gouvernement le mercredi. Mais il y avait d'autres désaccords avec Benjamin Netanyahou en matière de sécurité. Avigdor Lieberman avait déjà affiché notamment son opposition au résultat des tractations menées par l'Égypte entre Israël et le Hamas à Gaza, notamment le fait que le Qatar apporte une aide à la bande de Gaza qui était jugée comme un soutien direct au Hamas, considéré comme un groupe terroriste par Israël, comme par pas mal de pays sur la scène internationale, l'Union européenne, les États-Unis aussi. Avigdor Lieberman dénonçait donc cet accord-là, et puis il avait une position aussi sur le sort de Khan al-Ahmar, une communauté bédouine de Cisjordanie qui doit être détruite selon la loi israélienne. La Cour suprême a tranché sur cette décision, mais le gouvernement rechigne pour l'instant à mettre en place cette décision de justice parce qu'elle est très combattue par la communauté internationale qui verrait une atteinte à la solution à deux États. Et donc là, Avigdor Lieberman a marqué son opposition, mais c'est aussi un positionnement politique, un petit peu un calcul politicien, car on sait qu'il y a des élections qui doivent arriver bientôt, de toute façon en 2019, et qu'Avigdor Lieberman a besoin de redorer un peu son blason d'homme fort. Il est perçu en Israël comme quelqu'un qui dit beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose. Il voulait justement marquer qu'il n'était pas responsable finalement de ce qu'il qualifie aujourd'hui d'échec de la politique sécuritaire israélienne. C'est pour ça aussi qu'il est parti du gouvernement.
Ah oui, alors en démissionnant, il s'est retiré de la coalition gouvernementale, coalition qui ne dispose désormais plus que d'une majorité d'une seule voix. Rousseau nous demandait quel impact cette démission a finalement aujourd'hui sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou.
C'est vrai qu'une majorité d'une seule voix, c'est extrêmement fin, c'est la plus fine des démarches possibles. Alors, le gouvernement semblait déstabilisé après le départ d'Avigdor Lieberman. On a cru qu'il allait tomber, notamment parce que un autre parti de la coalition, le Foyer Juif, un parti nationaliste religieux, réclamait le poste de ministre de la Défense pour son chef, ce que refusait Benjamin Netanyahou. Mais finalement, Benjamin Netanyahou n'a pas cédé donc à cet ultimatum lancé par le Foyer Juif, et il a puis le Foyer Juif a finalement décidé de rester tout de même au sein de la coalition, car Benjamin Netanyahou a réussi à présenter une éventuelle chute du gouvernement comme dans ces cas-là étant l'entière responsabilité de ce parti. Et finalement, le Foyer Juif a préféré rester au gouvernement sans changer de poste. La coalition tient donc pour le moment, en tout cas, mais c'est vrai que sa majorité est réduite à un seul siège et qu'elle est donc extrêmement fine.
Et on verra évidemment si la coalition tiendra jusqu'aux élections prévues, vous le disiez, dans un an, en novembre 2019. Merci beaucoup, Guilhem Deltey, d'avoir été en direct avec nous de Jérusalem. Rousseau, bonne journée à Matadi, en République démocratique du Congo. Il nous reste 6 minutes, on a pris le temps ce matin de répondre à vos questions, mais on est là pour ça aussi, pour vous donner le maximum d'informations afin que vous puissiez comprendre les sujets qui vous interpellent en écoutant nos différents journaux. Bonjour Stéphanie Maupa.
Bonjour.
Correspondante de RFI à La Haye, nous vous avons contacté ce matin car nous avons reçu des questions concernant le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devant la CPI. Les audiences ont repris la semaine dernière. Bonjour Samadou.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin, à Parakou. On vous écoute.
Oui, exactement, je suis à Parakou.
On vous écoute.
Alors, oui. La première question est de savoir sur quoi les avocats de Laurent Gbagbo s'appuient pour dénoncer la diffamation de l'histoire.
Ah, bonne question. C'est vrai qu'il dénonce, les avocats de Laurent Gbagbo, une déformation de l'histoire. Que faut-il comprendre par là, Stéphanie Maupa?
Alors, je crois qu'il s'appuie notamment sur le fait qu'en présentant sa thèse, le procureur n'a pas ou très peu évoqué une partie de l'histoire de la crise de 2010, dont la présence de forces rebelles à Abidjan. Et à plusieurs reprises, il faut le dire, les juges ont eux-mêmes fait ce reproche au procureur. Alors, l'enjeu de cette question est capital, car pour l'accusation, Laurent Gbagbo aurait mis en place un plan qui ciblait précisément les civils, acquis ou supposément acquis à Alassane Ouattara. Et ce que disent les avocats de Laurent Gbagbo, c'est que les forces ivoiriennes, l'armée et la police étaient engagées dans une guérilla contre les rebelles. Et pour comprendre, il faut se rappeler que la guerre n'est pas illégale en soi, que lutter contre des combattants n'est pas illégal, et ce qu'explique les avocats qui considèrent que Laurent Gbagbo a emporté l'élection présidentielle en décembre 2010, c'est qu'en tant que chef d'État, il avait le devoir d'intervenir. Mais ce qui est illégal, ce sont les crimes perpétrés contre des civils, et c'est ce que reproche le procureur à Laurent Gbagbo. Et lorsque les civils sont délibérément ciblés de façon générale et systématique, eh bien cela peut constituer un crime contre l'humanité. Alors pour les avocats, le procureur aurait donc déformé les faits pour en quelque sorte essayer de faire entrer ces faits dans cette définition du crime contre l'humanité, le fait de cibler des civils de façon générale et systématique. Et il aurait fait ça pour pouvoir obtenir une condamnation éventuelle de Laurent Gbagbo.
Laurent Gbagbo poursuivi, rappelons-le, donc pour crime contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire de 2010 à 2011. Vous aviez une autre question, Samadou?
Oui, la deuxième question, c'est quelles sont les chances de Laurent Gbagbo d'être acquitté de la CPI?
Ah, d'être acquitté, c'est en tout cas ce que réclament ses avocats. Difficile de faire un pronostic précis, Stéphanie Maupas.
Oui, effectivement, personne n'est dans la tête des juges. Il faut pas oublier que les accusations sont graves, que le dossier fait plusieurs milliers de pages. Mais il y a quelques signes néanmoins qui montrent une certaine impatience des juges face à la thèse et aux éléments de preuve qui ont été présentés par l'accusation. Les juges ont notamment accepté de donner aux avocats la possibilité de faire une demande d'acquittement, qui est la procédure à laquelle on assiste actuellement. Ils ont accepté cela alors que l'on est supposé être à mi-parcours du procès. Selon la procédure de la Cour, il y a d'abord l'audition des témoins du procureur, ce à quoi on a assisté entre janvier 2016 et janvier 2018. Et ensuite, les avocats doivent présenter leurs propres preuves à décharge. Mais comme ils estiment que le dossier est vide, ils disent qu'il n'y a pas de contre-preuve à présenter, et les juges leur ont jusqu'ici laissé dire cela.
Oui, mais en même temps, Stéphanie Maupas, on a comme l'impression qu'il y a des divergences entre les trois juges.
Oui, effectivement, et on peut lire ces divergences à partir des questions qu'ils posent lors des différentes audiences ou des décisions qu'ils ont prises ces dernières années. Alors maintenant, est-ce qu'au cours des trois derniers jours, au cours desquels les avocats de Laurent Gbagbo ont plaidé devant la Cour, est-ce qu'ils ont été assez convaincants? Il est difficile de le dire, bien évidemment, de savoir s'ils auront réussi à faire pencher la balance de leur côté. On sait qu'il y a plusieurs scénarios possibles, soit les juges acquittent ou prononcent le non-lieu et le procès sera terminé, soit ils décident de poursuivre le procès sur les mêmes bases que depuis le début de ce procès ouvert, je vous le disais tout à l'heure, en janvier 2016. Soit il est possible qu'ils demandent aux avocats de présenter des contre-preuves sur l'un ou l'autre des éléments du dossier sur lequel pèserait encore un doute raisonnable. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, quand est-ce que la décision sera rendue? On ne sait pas encore pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que dans une précédente affaire, les juges avaient pris 3 mois pour trancher.
Affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Stéphanie Maupas, correspondante de RFI à La Haye. Vous souhaitez réagir justement à ce procès? Appelez-nous. RFI vous donnera la parole vendredi dans la libre antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Merci Samadou d'écouter RFI à Parakou. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Dans une petite minute, on va retrouver la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra tout de suite après pour débattre après l'extradition de cet ancien chef de guerre centrafricain surnommé Rambo. Il a été extradé samedi devant la Cour pénale internationale. C'est la première fois qu'un centrafricain est remis à la justice internationale. Alors fallait-il l'extrader? Fallait-il plutôt le juger en Centrafrique? Voilà la question qui sera débattue dans une dizaine de minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.